Nombre chapitre 20. Les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tsin, le premier mois, et le peuple habita à Kadès, et Marie mourut là, et y fut enterrée. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils parlèrent disant, « Que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel ? Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert pour y mourir, nous et nos bêtes ? Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. On n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau pour boire. » Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation et tombèrent sur leur face. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Et il donnera ses eaux. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu leur donneras à boire, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. » Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Et Moïse leva sa main et frappa le rocher de sa verge deux fois. Il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but et leurs bêtes. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne. Ce sont là les eaux de Meriba, où les fils d'Israël contestèrent avec l'Éternel, et il se sanctifia en eux. Et Moïse envoya de Kadès des messagers au roi d'Édom. Ainsi dit ton frère Israël, tu sais toute la fatigue qui nous a atteints. Nos pères descendirent en Égypte, et nous avons habité en Égypte longtemps, et les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de tes limites. Je te prie que nous passions par ton pays, nous ne passerons pas par les champs ni par les vignes, et nous ne boirons pas de l'eau des puits, nous marcherons par le chemin du roi. Nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Et Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, de peur que je ne sorte à ta rencontre avec l'épée. Et les fils d'Israël lui dirent, nous monterons par le chemin battu, et si nous buvons de tes eaux, moi et mon bétail, j'en donnerai le prix. Seulement, sans autre chose, je passerai avec mes pieds. Et Édom lui dit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un grand peuple et à main forte. Et Édom refusa de laisser passer Israël par ses limites. Et Israël se détourna d'auprès de lui. Et ils partirent de Kadès, et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent à la montagne de Hor. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans la montagne de Hor, sur la limite du pays d'Édom, en disant, « Aaron sera recueilli vers ses peuples, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, parce que vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Meriba. Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor. » Et dépouille Aaron de ses vêtements, et fait les revêtir à Éléazar, son fils. Et Aaron sera recueilli et mourra là. Et Moïse fit comme l'Éternel avait commandé. Et ils montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute l'assemblée. Et Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et en revêtit Éléazar, son fils. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura à Aaron 30 jours.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous venons de chanter de la grâce de Dieu, et nous l'avons exprimé aussi dans notre prière, cette immense grâce. Peut-être quelqu'un pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la grâce? En très simple terme, pour moi, je dis la grâce, c'est que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritons le jugement, mais il ne nous juge pas à cause de la mort de Christ sur la croix. Et il nous donne ce que nous ne méritons pas, la grâce, toute notre vie. Alors, cette pensée de la grâce domine notre méditation ce soir, dans ce chapitre 20e des Nombres. On pourrait peut-être même intituler ce chapitre selon ce verset merveilleux dans l'Épître Romains, chapitre 5, verset 20. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Voilà une pensée qu'il faut retenir ce soir. Grâce. Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Alors, il n'y a rien pour être fier, ou pour être orgueilleux, ou se voir soi-même mieux que les autres, puisque nous sommes tous des objets de la grâce de Dieu. Hier soir, nous avons vu dans le chapitre 18, 19e, combien notre Dieu est saint. L'apôtre Jean souligne cela au début de sa première épître. Dieu est lumière. Et puis, Dieu est amour, dans le chapitre 4e. Nous renversons l'ordre. Dieu est amour, et puis, oui, il est aussi lumière. Non, on commence avec la lumière de sa sainteté. Il ne peut pas supporter ni regarder le péché. Mais comment est-ce qu'il peut donc nous recevoir, nous accepter? C'est la grâce. C'est la grâce. Il a trouvé un moyen pour que nous soyons proches de lui, en Jésus-Christ. Et même si dans ce chapitre 19e, nous avons trouvé le mot impur au moins 18 fois, Dieu a donné une provision, un moyen pour qu'il peut continuer à demeurer au milieu de son peuple et que son peuple peut s'approcher de lui, et aussi dans le cas qu'ils sont tombés dans le péché, ils peuvent être pardonnés, leur communion qui a été interrompue avec Dieu peut être restauré. Et c'est le message pour chacun de nous ce soir. Certainement, nous devons tous confesser que nous faisons souvent faillite et souvent nous attristons l'Esprit de Dieu et aussi le Seigneur Jésus. Mais comme je l'ai dit hier soir, je répète, il ne faut pas accepter le mensonge du diable qui nous dit, mais maintenant ça suffit. Maintenant tu as dépassé les limites de ce que tu as fait, maintenant il n'y a pas de pardon pour cela. Peut-être parmi les hommes on met des limites du pardon, mais Dieu ne met pas de limites de pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut saisir cela par la foi. Le pardon, la restauration de nos âmes. Il restaure mon âme. Le psaume 23. Il restaure mon âme. Et combien en y a des cœurs qui sont brisés, où le diable a réussi de les déprimer, de les décourager, et qui n'ose pas espérer que Dieu peut encore le recevoir. Mes chers amis, le message de la Bible, c'est que Dieu reçoit tous ceux qui viennent avec un brisement de cœur, la confession de leurs besoins et leurs péchés, et ils sont acceptés. et pardonner et restaurer. Mais il faut aussi se pardonner soi-même et ne pas rester dans cet orgueil, cet esprit de que de penser, c'est moi qui ai pu faire ça. Oui, toi et moi. Il y a un verset dans le livre des rois, je pense que c'était Salomon qui exprimait cela, que chacun doit savoir la plaie de son propre cœur. Oui, en effet, il y a le péché qui habite en nous et il y a la chair qui est en nous. Et c'est pour cela que nous devons veiller chaque moment, demander que le Seigneur nous garde tout près de lui. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Nous sommes donc en route avec le peuple de Dieu. Nous avons vu Israël est en route pour le pays de Canaan. Et les 10 premiers chapitres de Nombre, c'était donc la préparation pour ce voyage qui pouvait être achevé en 11 jours, mais ils ont mis 40 ans. Donc depuis le chapitre 10e jusqu'au chapitre 22e, nous avons leur course errante. 40 ans, ils faisaient des cercles. Parce que par leur incrédulité, ils ne voulaient pas entrer dans le pays. Et ils avaient accepté le mauvais compte rendu des espions, les 10, et ils ne voulaient pas entrer dans le pays que l'Éternel les a préparé. Alors Dieu avait dit, cette première génération n'entre jamais. Retournez. Et leurs enfants entreront. Alors, ces chapitres de 14, là où Dieu a fermé la porte pour la première génération, donc au début du chapitre 15e jusqu'à la fin du chapitre 19e, nous avons décrit ces 40 ans de leur course errante. Et nous arrivons maintenant au chapitre 20. Et on ne réalise pas peut-être qu'entre chapitre 19 et chapitre 20, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Ce qui est merveilleux que dans le livre des Hébreux, quand le Seigneur décrit ces héros de la foi, il ne fait pas mention de faillite d'Israël. Il passe là-dessus. C'est merveilleux. C'est la grâce. C'est la grâce. Si nous avons confessé, sérieusement, honnêtement, Dieu pardonne et il passe dessus. Il ne se souvient pas de cela. Même si nous nous souvenons de ce que nous avons fait. Et pour ainsi dire, si je dois le souvenir, Seigneur, mais tu sais, n'est-ce pas, l'autre jour ou la semaine passée, il va me dire, mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai oublié. Est-ce que nous faisons cela aussi, mes chers amis? Nous faisons cela aussi? Pas seulement pardonner, mais aussi oublier. C'est la grâce qui oublie, qui ne tient pas compte des fautes d'autrui, de nos frères et sœurs. Donc, et ils ont donc presque fini leur voyage. Ils arrivent dans les plaines de Moab maintenant. Ils ont fait des cercles. Et nous voyons donc qu'ils sont arrivés au début du chapitre 20, et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tsin le premier mois, et le peuple habita à Kadesh. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils sont arrivés là, comme je viens de dire. Et cela est souligné dans le chapitre 13e de ce même livre des Nombres. Nombres, chapitre 13. Et le verset 22. Et ils montèrent et reconnurent le pays depuis le désert de Tsin, le même désert dans le chapitre 20e, jusqu'à Rehob. Et maintenant, verset 26, « Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours, et ils allèrent et arrivèrent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des fils d'Israël au désert de Paran à Kadesh. » Vous voyez les deux les deux noms Tsin et Kadesh dans le chapitre 13e, mais depuis, 40 ans ont passé et maintenant ils sont de retour, aussi à Tsin et Kadesh. Mais maintenant pour continuer le chemin, de Kadesh à Moab, ou aux rives du Jourdain, dans les plaines de Moab. Rive du Jourdain, c'est la même chose que des plaines de Moab. Ils arrivent. Et c'est la deuxième génération qui arrive. Est-ce que cette deuxième génération était meilleure que leur père? Pas du tout. La chair reste la même. Dans les pères, dans les fils, dans les ancêtres. Peut-être aujourd'hui on dit, mais ce sont les anciens frères qui ont fait tout ça, qui, etc. On accuse. Mais nous avons les mêmes faiblesses, la même chair qui habite en nous. Voilà donc, nous arrivons à ce chapitre 20, et je vois dans ce chapitre quelques divisions. Un petit canevas pour vous. Le verset premier, Marie mourut. Le verset 2 à 5, la foi est éprouvée. Toujours notre foi est éprouvée. Satan nous attaque pour affaiblir notre foi, pour nous faire tomber. Le Seigneur nous prouve, nous teste, nous examine afin de fortifier notre foi. Mais la foi doit être éprouvée pour la fortifier. Verset 2 à 5. Verset 6 à 8, la grâce qui abonde. Verset 9 à 13, l'échec de Moïse et d'Aaron. Verset 14 à 22, l'opposition de l'ennemi. Et verset 23 à 29, la mort d'Aaron. Voilà un petit canevas qui est devant nous. C'est donc la dernière année des 40 dans le désert, et ils sont là. Ils peuvent voir déjà à l'autre rive le pays de Canaan. Mais il y a encore des choses à régler avant qu'ils puissent passer dans le livre de Josué. L'Éternel dit à Josué, eh bien, passe, traverse le Jourdain. Mais ils sont là, ils arrivent aux rives du Jourdain. Mais qu'est-ce qui se passait donc? Est-ce qu'il n'y a rien écrit de ces 40 ans? Si nous avons dit que dans le Nouveau Testament, le Seigneur passe là-dessus, mais il y a des versets que nous trouvons par exemple dans le livre d'Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel et chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20, verset 13. Et la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas dans mes statuts et ils rejetèrent mes ordonnances par lesquelles, si les pratique, un homme vivra. Et ils profanèrent extrêmement mes sabbats. Et j'ai dit que je verserai sur eux ma fureur dans le désert pour les consumer. Un autre verset dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 5. Amos 5, verset 25. Mais m'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert pendant 40 ans? Maison d'Israël, mais vous avez porté le tabernacle de votre Moloch et le kiun de vos images, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fait, et je vous transporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, son nom est le Dieu des armées. Un verset dans le Nouveau Testament, le livre des Actes. Livre des Actes, chapitre 7. C'est Étienne qui parle de l'histoire d'Israël. dans le désert. Actes chapitre 7 et verset 42. Et Dieu se retourna et les livra au service de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes, « M'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, maison d'Israël ? Et vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu enfant, les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage, et je vous transporterai au-delà de Babylone. » Voilà le côté d'Israël. Leur infidélité, leur incrédulité, leur péché, leur idolâtrie. Ils avaient donc mérité d'être jugés. Maintenant, le côté de Dieu. Livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 2. Deutéronome, chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans toute l'œuvre de ta main. Il a connu ta marche par ce grand désert. Pendant ces 40 ans, l'Éternel ton Dieu a été avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui, là où le péché abondait, la grâce surabondait. Ils ont tourné le dos vers l'Éternel, ils se sont prosternés devant les idoles, et en dépit de tout cela, Dieu a été miséricordieux. Il les a gardés, il les a bénis, et rien n'a manqué. Est-ce que c'est votre histoire aussi, cher ami? C'est mon histoire, moi. C'est mon histoire. Je suis toujours émerveillé chaque matin quand je me lève, je dis, et même encore. Moi, je connais un petit peu mon propre cœur, un petit peu. Et j'ai le dégoût. Mais il me connaît au fond. Et en dépit de tout cela, tout le potentiel qui est à moi pour le mal, il a déjà vu avant la fondation du monde. Et en dépit de tout cela, il m'a aimé, il vous a aimé. Il vous a élu et choisi, béni, comblé, accepté, et toujours, pour l'éternité. Quel bonheur. Ça, c'est notre Dieu. Et c'est ainsi que nous le trouvons encore une fois de plus dans ce chapitre. Ce Dieu plein de grâce. Voilà donc, au début de ce chapitre, nous lisons que Marie mourut. Elle n'est pas arrivée, elle n'est pas entrée dans le pays de Canaan. Ni non plus Moïse et Aaron. Si Aaron, c'est une figure de la loi, nous savons par l'enseignement de la parole de Dieu que la loi ne peut pas nous faire entrer dans les lieux célestes en Christ où nous sommes bénis. C'est par la grâce. Mais Marie, il y a un verset en Hébreux 4, verset 1, qui peut être appliqué peut-être sur le cas de Marie. Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas atteindre. Pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu en Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais si je m'arrête, moi, simplement à confesser mes péchés et de recevoir le pardon de mes péchés, et ça c'est tout, c'est la limite de mon expérience, et que je ne m'intéresse pas dans les conseils de Dieu en Christ dès l'éternité pour l'Assemblée, l'Église, et notre avenir glorieuse, et que nous sommes bénis, que nous avons tous en Jésus-Christ, que Christ est ma vie, que je suis maintenant en Christ dans les lieux célestes, si cela ne m'intéresse pas. Alors, Hébreux 4, verset 1, s'applique à moi ou à vous. pas entrer dans ce repos. Là où on se repose dans la plénitude de Christ. Là où on se perd de soi-même. Là où on a réalisé, non, ça suffit. J'ai vécu indépendamment de la volonté du Seigneur dans ma vie du passé. Maintenant, je veux vivre pour lui. Christ est ma vie. Et donc, s'intéresser dans ce qu'est l'Assemblée, le corps de Christ, que nous sommes membres dans ce corps de Christ. Nous ne sommes pas des petites îles dans un grand océan, chacun pour soi-même. Nous, nous sommes un corps, un seul corps, avec divers membres, divers fonctionnements, et chacun a donc son fonctionnement à remplir. Mais ensemble, nous avons besoin les uns les autres. Prince, dis-moi, j'ai besoin de toi, et toi, tu as besoin de moi, comme membre dans le corps de Christ. Comment est-ce qu'on peut donc se détruire les uns les autres? C'est la désintégration du corps de Christ, pour ainsi dire. Nous avons besoin les uns les autres. Se compléter. Se compléter. Là où moi je manque, tu peux m'aider. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir de nos frères et sœurs? Si moi j'ai une pensée et un frère a une autre pensée, est-ce que je suis prêt aussi à le recevoir? Non. Moi j'ai raison. Mais les autres sont fautifs. C'est pour cela qu'il y a cette grâce qui abonde. Si Dieu abonde en grâce envers nous, nous devons aussi manifester cette grâce de se respecter les uns les autres, de s'accepter les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de marcher ensemble, parce que justement c'est là que l'ennemi réussit à nous écarter les uns les autres. Parce qu'il sait très bien, si le peuple de Dieu est uni, c'est une force qui ne peut pas résister. Mais s'il arrive à nous écarter, voilà, il a gagné. Il a gagné. C'est donc à nous, à moi, avec l'aide du Seigneur, de rechercher, de manifester cette unité dans le corps de Christ, moi comme membre, toi comme membre, ensemble, par la grâce de Dieu. Mais nous avons un petit témoignage rendu de Marie et de Moïse aussi, en Exode 15. Et ça nous montre leurs visions qui sont différentes, frères et sœurs. Quand Moïse, après qu'ils ont sorti, donc traversé la mer Rouge, Moïse chante et Marie aussi chante. Mais qu'est-ce que le chant de Moïse dans Exode 15, verset 2 ? Yah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut, il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation. Il voit plus que le salut, il voit une habitation de Dieu. Verset 13. Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté, tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. Il pense à une habitation, une demeure de Dieu au milieu de son peuple. Verset 17. Et tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel, le sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. Vous voyez ? Dans les termes d'aujourd'hui, voilà un croyant qui se réjouit dans le salut, c'est sûr, mais il va beaucoup plus que cela. Il n'est pas égoïste. Oui, il est sauvé. Mais est-ce que Dieu n'a pas aussi sa portion à lui ? La joie de son cœur, la joie du cœur du Seigneur Jésus, c'est de voir son Église et son épouse complète, à son côté, son habitation. Marie, dans le verset 20, « Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins en cœur. » Et Marie leur répondait, « Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, et il est précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. » Il n'y a rien ici qui parle du sanctuaire, de l'habitation de Dieu. C'est simplement une pensée que je donne pour notre méditation. Différentes frères et sœurs ont aussi différentes visions, différentes capacités spirituelles. Même dans une assemblée locale, tous les frères et sœurs ne vivent pas sur le même plan spirituel. Il y a différence. Et c'est bien que nous nous rendons compte de cela, de ne pas exiger trop de ceux qui sont jeunes dans la foi. Mais il faut faire des plus gros progrès. Oui, nous avons notre portion en Jésus-Christ, le salut. Est-ce qu'il est aussi sa portion en nous, que nous nous intéressions dans ses conseils, dans ce qu'il a pour son cœur pour l'éternité, l'assemblée, son corps, son épouse? Eh bien, elle fut enterrée là, à Cadès. Et arrive verset 2 à 5. La foi est éprouvée. Verset 2. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, mes chers amis. Retournons encore une fois dans le livre d'Exode, chapitre 15. Exode 15, verset 22. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et il sortit vers le désert de Shur. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Ils vinrent à Mara, etc. Chapitre 17. Chapitre 17, verset 1er. Et toute l'assemblée des fils d'Israël partit du désert de Sin, selon leur traite. D'après le commandement de l'Éternel, ils campèrent à Rephidim, et il n'y avait point d'eau à boire. Et encore une troisième fois, point d'eau. Mais ces deux fois, chapitre 15, chapitre 17 d'Exode, le Seigneur a merveilleusement donné de l'eau. Pourquoi ils ne font pas confiance maintenant? Parce que c'est comme tout le monde. Combien de fois nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne les mêmes leçons? Nous avons eu une difficulté, un grand problème. Nous l'avons mis devant le Seigneur, nous avons supplié le Seigneur, il nous a exaucé et nous avons rendu grâce. Et puis, quelque temps après, un autre problème et on perd confiance, on est découragé. Mais pourquoi ?